Vous êtes sur RTL. RTL Midi. Le 12h. Pascal Pro, Céline Landreau.
Bonjour à tous et bienvenue dans RTL Midi. 2h30 d'information et d'opinion jusqu'à 14h30. L'information jusqu'à 13h, c'est avec vous. Céline, bonjour. Céline Landreau et l'information du matin.
Bonjour Pascal, bonjour à tous. L'information du matin, c'est que Charles III ne viendra pas en France, en tout cas pas tout de suite. Le voyage d'État, le premier du roi, est reporté à cause de la situation sociale et politique dans le pays. Charles III devait passer 3 jours en France en début de semaine prochaine, mais voilà, une nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites est annoncée mardi. Et hier, déjà, les incidents ont été nombreux dans le pays. La porte de l'hôtel de ville de Bordeaux, où Charles III était attendu, a ainsi été incendiée. On sera sur place dans quelques minutes. Un revers diplomatique en pleine crise politique. On y reviendra évidemment longuement tout au long de cette édition. Et c'est l'objet de la question du jour sur notre site rtl.fr. À propos de ce conflit autour de la réforme des retraites, faut-il, comme l'a demandé sur notre antenne Laurent Berger de la CFDT, mettre sur pause cette réforme.
Actualité très politique et sociale, vous l'aurez compris, mais nous parlerons aussi du CIDACTION.
Florence Thune, sa présidente, sera notre invitée à 12h20 et vous verrez qu'il est toujours aussi important de se mobiliser et d'informer sur les risques du VIH. Du foot également, au début des éliminatoires de l'Euro 2024. Ce soir pour les Bleus, ce sera face aux Pays-Bas. Enfin, juste avant 13h, LVT midi, et on rendra hommage aujourd'hui à Marion Gamme, dont on a appris ce matin la disparition, très connue notamment pour son rôle d'Huguette, la femme de Raymond, avec qui elle formait un couple acide dans la série Scène de ménage.
Évidemment, les manifestations et Charles III au programme des auditeurs dans une heure.
Avant ça, la météo avec vous, Anthony Kazmarek, aujourd'hui. Bonjour.
Bonjour Céline, bonjour à tous.
C'est instable cet après-midi.
Ah oui, un cocktail très agité, de la pluie, du vent, des giboulées, des orages, mais toujours une relative douceur.
Merci Anthony, les prévisions complètes à la fin du journal.
RTL Midi.
On l'a donc appris il y a quelques minutes, la première visite de Charles III en France, prévue en début de semaine prochaine, est reportée. Bonjour Thomas Després.
Bonjour.
Le climat politique, la situation sociale rendait la chose impossible.
Oui, les deux hommes se sont appelés ce matin, Charles III et Emmanuel Macron. Ils ont évoqué la journée de mardi, nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites. La décision a été prise entre les deux. Ils ont pris conscience que les actions qui allaient être menées contre l'événement risquaient de perturber cette visite. Décision prise à contre-cœur par les équipes d'Emmanuel Macron et de Charles III. Une visite reportée dans les meilleurs délais, dit le Palais de l'Élysée dans un communiqué il y a quelques minutes. Emmanuel Macron, qui en ce moment même est à Bruxelles pour le Conseil européen, où il s'exprimera sans doute sur la question dans quelques minutes.
En vous écoutant, j'ai le sentiment que c'est d'un commun accord.
Ah bah en tout cas, c'est ce que dit le communiqué de l'Élysée et c'est ce qu'expliquent les conseillers avec lesquels on a pu échanger à Bruxelles et à Paris ce matin.
Merci Thomas Després. On retrouve maintenant en direct de Londres Marie Billon, notre correspondante au Royaume-Uni. Marie, ce déplacement à Paris devait être le premier voyage d'État du roi Charles III. Comment on prend la nouvelle de votre côté de la Manche ?
Eh bien écoutez, c'est une surprise à moitié évidemment parce que les développements en France étaient suivis, mais vraiment 6 minutes avant que le communiqué de l'Élysée ne tombe, la BBC venait de publier un article en disant que la visite était confirmée et que c'était certain. Alors évidemment, il y a eu un retour de bâton juste après, mais en même temps, l'important pour le palais était que cette première visite du roi Charles III, la première visite du nouveau...
Marie Billon, pardon, on a été coupé, vous le disiez. La visite avait été confirmée par la BBC quelques minutes seulement avant que l'annulation ne tombe.
Ah. Manifestement, nous avons un souci de liaison avec Marie Billon qu'on pourra retrouver, pourquoi pas, plus tard. Merci en tout cas à Thomas Després. On va parler d'ici 13h régulièrement et comprendre pourquoi cette... visite est reportée, mais cette annulation, on le disait, directement liée forcément à la situation en France.
Les scènes des incidents qui se sont multipliées, oui, hier dans le pays, la porte de la mairie de Bordeaux incendiée, notamment, on y reviendra dans quelques minutes, les affrontements avec les forces de l'ordre dans plusieurs villes du pays, à la clé, plus de 400 blessés chez les forces de l'ordre, 457 interpellations au total. On reviendra d'ailleurs sur le profil des casseurs à 12h30 avec Anne Le Hennaf.
Et après la forte mobilisation d'hier, plus d'1 million de personnes dans les rues, les syndicats ont déjà appelé à une nouvelle grande journée de manifestation. manifestation et c'est mardi prochain, c'est quasiment demain.
D'ici là, la grève reconductible se poursuit dans plusieurs secteurs, chez les éboueurs, dans les transports, avec son lot de perturbations. À l'aéroport d'Orly, par exemple, un tiers des vols sera annulé dimanche et lundi, un vol sur cinq sera annulé dans l'aéroport parisien, mais aussi à Lyon ou encore Marseille.
Dans ce contexte, comment renouer le dialogue?
C'est la grande question, car à l'heure actuelle, il semble bel et bien rompu entre le gouvernement et les syndicats, même si sur RTL, ce matin, Laurent Berger, le leader de la CFDT, a semblé tendre la main à l'exécutif.
Moi, j'en appelle à l'apaisement. C'est le moment pour dire, écoutez, on fait une pause. On fait une pause et on se dit, on attend 6 mois. S'il faut, il faut nommer des gens pour nous aider à nous parler, si on n'arrivait pas à nous parler, ce qui serait un problème. Mais pourquoi pas? Mais il faut, dans ces cas-là, donner un signal au monde du travail.
Il faut que ce soit à Matignon, à l'Élysée, peu importe, ailleurs.
Franchement, peu importe. La question, c'est la solution. C'est la solution, c'est de dire, écoutez, on met sur pause. On se donne 6 mois pour regarder et sur le travail et sur les retraites comment il faut reprendre les choses à l'endroit. Et ensuite, les organisations syndicales, elles diront, écoutez, on va nourrir nos propositions. On va venir, contrairement à ce qui a été dit mercredi, il y a des propositions sur la table. Mmh. Et puis, on va trouver le compromis s'il est possible. Mais ça calmerait le jeu, vous voyez bien.
Laurent Berger avec Amandine Bégaud ce matin sur RTL. Autre source d'inquiétude pour les autorités, la situation dans les Deux-Sèvres où les militants anti-mégabassines, ces grandes réserves d'eau dédiées à l'irrigation agricole, se sont donné rendez-vous. 7 à 10 000 personnes attendues à Mel. 3 200 policiers et gendarmes sont mobilisés. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, évoquait notamment la crainte de violence sur ces manifestations.
RTL Midi.
Et puis hommage à Marion Gamme qui vient de nous quitter.
Marion Gamme que vous connaissez peut-être sous le nom d'Huguette et qui formait avec Raymond ce couple Vachard dans la série Scène de ménage sur M6, Isabelle Morini-Bosque.
Et justement, impossible d'évoquer Marion Gamme sans auparavant écouter l'un des premiers sketchs de Scène de ménage, élu série préférée des téléspectateurs.
Tu sais ce qui me manquera le plus quand tu mourras?
Non.
Ta retraite.
Voilà, tout est dit. Huguette et Raymond, alias Gérard Hernandez et Marion Gamme, les octogénaires infernaux de Scène de ménage. Marion Gamme nous a donc quittés aujourd'hui. Et comme le public, je suis vraiment, vraiment triste. Reine du théâtre de boulevard dès sa 20e année et de jeux télé comme l'Académie des Neufs, elle est devenue la chouchou du public de tous âges grâce effectivement au format court de M6. De nouveau célèbre alors que la critique la disait ringarde dès les années 80. Elle s'en amusait et s'amusait dans les interviews beaucoup avec son partenaire comme ici en 2019.
On attaque la 9e année quand même.
Ah ouais.
C'est la même chose.
Oui, parce que je suis mariée avec Gérard Hernandez et je ne me lasse pas.
Vous savez, il y a plein de gens qui pensent que vous êtes mariés ensemble.
Hein. Dites pas de conneries, alors voyons. Je suis bête, d'accord, mais pas à ce point-là.
Oui, j'ai souvent dit Marion Gamme parce qu'elle, au début, s'appelait Marion Gamme. Donc, du coup, ça m'est resté Marion Gamme. Pétillante, pétulante, joyeuse, parfois vacharde, elle a fait le sens du mot, comme ce jour où elle m'a dit « Moi, je pourrais jamais être une oie blanche, je suis pied noir ».
Isabelle Morini-Bosque, et on reviendra sur le parcours, la carrière de Marion Gamme tout à l'heure dans LVT Midi. Elle avait 84 ans.
Le foot, et d'ailleurs ce soir, Emmanuel Macron avait prévu d'être au Stade de France. Je ne sais pas s'il sera présent. Les éliminatoires de l'Euro 2024 qui commencent ce soir pour les hommes de Deschamps.
Emmenés par leur nouveau capitaine Kylian Mbappé, les Bleus affrontent les Pays-Bas au Stade de France. Vous l'avez dit à Pascal, le coup d'envoi ce sera à 20h45 et ce sera à vivre évidemment dès 20h dans RTL Foot. La météo, Anthony Kazmarek. C'est un peu comme la situation sociale, c'est assez instable.
Oui, c'est agité aujourd'hui avec d'abord la perturbation d'hier qui s'est décalée vers le sud et qu'on retrouve entre les Pyrénées, le Massif central et les frontières de l'Est avec de la pluie. Pluie soutenue entre la région Rhône-Alpes et le Jura, ainsi que vers l'Est des Pyrénées où il pourrait y avoir des orages. C'est plus sec mais quand même assez nuageux entre la Côte d'Azur et la Corse. Et puis partout ailleurs, régime d'averses. C'était calme ce matin mais ça va à nouveau s'instabiliser dans l'après-midi avec des giboulées, des averses, des orages, de fortes rafales de vent, notamment près de la Manche jusqu'à 80 km/h, mais toujours dans une relative douceur pour la saison, avec 12 à 16 degrés pour la moitié nord, 15 à 20 dans le sud. Vous aurez 14 à Lille et Rennes, 16 à Paris, Bordeaux et Strasbourg, 19 à Marseille et 20 degrés pour Perpignan.
Merci Anthony.
RTL Midi, un jour chez vous.
Et nous allons partir pour Bordeaux parce que vous avez certainement vu ces images de la porte de la mairie qui a brûlé.
Bonjour Patrick Tégéraud.
Oui, bonjour Céline, bonjour à tous.
La porte de la mairie de Bordeaux, Pascal le disait, incendiée hier, c'est peut-être l'une des images qui ont fait basculer cette décision de reporter la visite de Charles III en France. Elle a donc brûlé hier soir en fin de manifestation contre la réforme des retraites.
Oui, et ce matin, des experts des monuments historiques ont expertisé cette porte monumentale. Elle avait été restaurée l'an dernier. C'était une magnifique pièce de menuiserie rehaussée d'un superbe heurtoir qui semble, lui, ne pas avoir été trop endommagée. La peinture bleu foncé a brûlé, ainsi que la surface des pièces de chêne qui composent cette porte immense. Et vous savez, de nombreux curieux se pressent actuellement, téléphone portable à la main. Et parmi eux, Stéphane et Alain, qui sont bien sûr très tristes.
Et je pensais que c'était juste le vernis de la porte, mais on voit que le bois est quand même sérieusement attaqué. Sur le symbole, je trouve ça épouvantable. Hein. Quelle que soit la raison, quelle que soit la motivation.
On ne s'attaque pas à des choses comme ça. Quoi. Ça m'étonnerait que ce soit des gens qui ont manifesté, c'est pas possible. C'est des gens qui ont envie de se montrer, qui ont envie qu'on parle d'eux surtout.
Et une main anonyme a même déposé un bouquet de fleurs au pied du porche.
L'enquête commence, Patrick. Est-ce qu'on sait qui a pu commettre cet incendie ?
Eh bien, extrême droite ou extrême gauche, rien n'est prouvé pour l'instant, mais il semblerait qu'il y ait eu préméditation, car le préfet Étienne Guyot, que j'ai rencontré il y a quelques instants, a constaté qu'il y avait eu des sabotages en amont de l'incendie, bien après la manifestation.
Les bornes d'accès au centre-ville ont été sabotées pour empêcher les pompiers de passer, donc il y a eu les caméras de vidéoprotection de la ville, tout ça dans un contexte de sabotage. La manifestation prend fin, c'est 2 heures après que l'on apprend qu'il y a une tentative d'incendie de la porte extérieure de la mairie. La police, n'ayant plus la vision des caméras qui ont été sabotées sur l'hôtel de ville, la police intervient extrêmement rapidement. En moins de 15 minutes, elle rassemble les effectifs, elle intervient, elle disperse les fauteurs de troubles, elle empêche l'envahissement de la mairie, elle permet aux pompiers d'éteindre le feu. Tout ça, ça se fait en moins de 15 minutes. Une personne a été interpellée sur place en flagrant délit. Une personne qui était en train d'alimenter le feu et qui a essayé de s'enfuir a été interpellée par la police. Elle est aujourd'hui en garde à vue. Ces gens qui interviennent en marge ou après la manifestation, ça n'a rien à voir avec les manifestants qui sont encadrés et avec des manifestations qui se passent globalement bien, avec une responsabilité des syndicats.
Et rappelons qu'au plus fort des manifestations des Gilets jaunes, très virulents ici à Bordeaux, l'hôtel de ville et son porche étaient toujours la cible des fins de manifestations violentes. Comme hier soir, une piste peut être à creuser.
Patrick, une petite question, puisque la nouvelle est tombée il y a moins d'une heure. Est-ce que les Bordelais savent déjà que Charles ne sera pas chez eux en début de semaine prochaine ?
Écoutez, non, je quittais la préfecture il y a à peu près 20 minutes et à l'époque, on me disait encore qu'on travaillait à l'avenue du roi Charles et que l'on attendait un communiqué de l'Élysée, vraisemblablement dans l'après-midi. Il semble qu'il soit tombé un petit peu plus tôt. Même son de cloche ici en mairie de Bordeaux, où on continuait à préparer cette venue historique de Charles III. Eh bien, je pense qu'on sera peut-être déçu de ce report, mais peut-être aussi rassuré, car vu le contexte, c'était peut-être pas le bon moment.
Merci beaucoup Patrick Tégéraud en direct de Bordeaux donc pour RTL.
On va essayer de décoder cette information avec Sophie Orange, notamment le roi Charles ne sera pas présent à Paris, et de comprendre pourquoi l'Élysée et Londres ont pris cette décision. À tout de suite.
Céline Landreau, Pascal Pro. RTL midi jusqu'à 13h. Céline Landreau, Pascal Pro, RTL Midi.
Les manifestants n'ont pas encore obtenu le report de la réforme des retraites, mais ils ont obtenu le report de la visite du roi d'Angleterre. Charles III ne sera pas à Paris en début de semaine prochaine. On l'a appris il y a quelques minutes. Pour en parler avec nous, Bénédicte Tassard, Guillaume Chézé et Sophie Orange. On commence avec vous, Bénédicte Tassard, en direct de Bruxelles, puisque le président Emmanuel Macron...
Bonjour.
Bonjour Bénédicte, pardon, participe actuellement à un conseil européen. Et c'est l'Élysée qui a fait savoir que cette visite était reportée.
Ah oui, de manière étonnante. Écoutez, en début de soirée, hier, l'équipe de l'Élysée, ici à Bruxelles, confirmait la venue de Charles III en France. Le programme était fixé, il n'y avait qu'un seul doute sur la visite de Notre-Dame. Le chantier de la cathédrale ne permettait pas au roi de voir des éléments intéressants. On nous promettait tous les détails pour ce matin. Mais l'annonce de la journée d'action de mardi, hier soir, donc, a tout chamboulé dans la nuit. Emmanuel Macron et Charles III se sont téléphonés ce matin. Ils ont pris la décision en commun. Je ne peux pas vous dire si ce coup de fil a eu lieu avant ou après le petit déjeuner du chef de l'État avec le chancelier allemand Olaf Scholz à 9h ici à Bruxelles. Mais en tout cas, c'est un report, pas une annulation, insiste l'Élysée il y a encore quelques minutes. Les deux parties ont bien convenu que les menaces d'action sociale n'étaient pas compatibles avec cet événement qui devait célébrer l'amitié entre Londres et Paris. Nous trouverons un meilleur moment, précise l'entourage du président de la République. Donc le premier pays visité par Charles depuis qu'il est souverain, Ce sera l'Allemagne mercredi, ça c'est confirmé. Visite à Berlin confirmée, ce ne sera pas la France.
Sophie Orange, c'était assez inattendu, quoique nous ayons posé la question ici depuis 48 heures.
Tout à fait, la question se posait parce qu'on se rendait bien compte que la situation se tendait. Et puis des images hier à Bordeaux, forcément aussi avec cette porte de la mairie en feu, les manifestations annoncées pour mardi, la situation devenait un petit peu trop compliquée. Alors le palais de Buckingham aujourd'hui vient de communiquer à l'instant, le roi et la reine se réjouissent de venir en France à des dates qui pourront être trouvées. Donc voilà, première réaction du roi et de la reine qui ne disent pas leur déception, mais en tout cas qui confirment qu'ils vont venir en France. Et le Premier ministre britannique qui fait savoir que c'est bien à la demande du président Macron que cette visite a été annulée.
Guillaume Chiez du service police-justice, c'est donc à la demande de la France que cette visite a été reportée, parce qu'au-delà de la portée symbolique qu'on a beaucoup évoquée ici même d'un dîner d'État à Versailles en pleine crise sociale, il y avait aussi un enjeu de sécurité qui était compliqué à assumer.
Oui, mais il faut savoir que ça fait un mois quand même que les policiers français travaillent sur la sécurité autour de cette visite. La préfecture de Paris avait proposé de mobiliser 100% de ses effectifs de voie publique, mais voilà, il y a eu ces appels sur les réseaux sociaux à gâcher ce qu'ils appelaient le moment princier, et puis Versailles compliqué aussi à sécuriser. On avait prévu un hélicoptère, des démineurs, 800 forces de l'ordre sur place, le TGV pour aller à Bordeaux. Gérald Darmanin le disait ce matin, on peut sécuriser un TGV, on sait sécuriser. Donc en fait, toutes ces questions-là, le renseignement français s'était penché dessus et avait prévu la sécurité autour de ça. Je pense qu'au-delà de l'enjeu sécuritaire, c'était surtout que tout incident qui pouvait y avoir lieu avec le prince Charles, avec le roi Charles, pourrait être ensuite brandi comme un trophée par les manifestants.
Ce qu'il faut dire aussi, c'est que cette décision a vraiment été prise au dernier moment. Ce matin, les habitants de Versailles ont reçu un mail à 11h pour être informés des restrictions de circulation.
Non, mais c'est la journée de mardi qui a tout changé, manifestement.
C'est la journée de mardi.
Voilà, à partir du moment où il y avait une journée de manifestation, c'est ce que disait Bénédicte Tassard, à ce moment-là, l'Élysée a tout changé ses plans. On n'imagine pas un million de personnes dans la rue avec le roi Charles au milieu.
C'est d'ailleurs par cette phrase-là que commence le communiqué de l'Élysée qui fait allusion à cette nouvelle journée de mobilisation.
Bien sûr.
Par exemple, à Bordeaux, l'arrivée du roi était prévue en début d'après-midi. Au moment où commençait la manifestation, donc qui s'est très mal terminée hier, c'était pas possible. Mais dès hier, à Bordeaux, je trouve qu'on sentait presque, c'était plus à Bordeaux que les risques d'annulation étaient les plus forts. Le maire, puis l'adjointe à l'international, avait beaucoup insisté en disant, si on nous demande de reporter ou d'annuler, on se pliera à cette décision. Si on nous demande de modifier le programme, parce que voilà, à Bordeaux, la journée était très compliquée.
Le dîner était prévu quand, le grand dîner de
lundi soir.
Donc c'était lundi soir, veille en plus de la manifestation, il pouvait effectivement avoir des manifestations précisément devant ce dîner, si ça avait été notamment à Versailles. Donc il y avait sans doute trop de risques, et pour Paris et pour Londres.
Et puis au-delà de la manifestation, c'est vrai que l'image de ce dîner de gala, voilà, aurait exactement, on le disait hier à la même heure.
48 heures qu'on le dit avec les auditeurs.
Mais encore une fois, c'est une histoire d'image, hein, parce que la sécurité, Gérald Darmanin l'a redit ce matin, elle était assurée autour du roi.
Les visites d'État annulées, c'est très très rare, hein, puisque la dernière en date, c'était en 2015, le roi Felipe et sa femme Laetitia étaient arrivés en France pour une visite d'État. Ils avaient déjà rencontré Manuel Valls, le Premier ministre. Ils étaient arrivés à l'Élysée et on avait appris le crash de la Germanwings avec beaucoup, beaucoup de victimes espagnoles, et le roi et la reine avaient fait demi-tour. Donc elle n'était pas annulée, elle a été interrompue. Donc c'était extrêmement rare.
Sophie Orange et Guillaume Chiez, merci. Dans un instant, RTL Midi, votre vie, le week-end du site d'action commence aujourd'hui. On en parle tout de suite.
Jusqu'à 13h, RTL Midi. Pascal Pro, Céline Landreau. RTL Midi, votre vie.
RTL Midi, votre vie, oui, car l'info, c'est aussi ce qui fait votre quotidien. Et aujourd'hui,
on va parler du site d'action, puisque c'est la 29e édition qui démarre aujourd'hui. 3 jours de mobilisation et d'information aujourd'hui, donc demain, samedi et dimanche. Et pour en parler avec nous, Florence Thune, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directrice générale du site d'action, ce week-end donc de mobilisation pour parler, informer toujours à propos du sida et du VIH. Information très nécessaire, à en croire ce sondage que vous avez réalisé avec l'IFOP sur les jeunes, les 15-24 ans. Moi, j'ai été assez surprise en lisant les résultats de ce sondage, notamment ce chiffre, 17% des jeunes interrogés qui pensent encore que le sida peut être transmis en embrassant une personne séropositive ou en entrant en contact avec sa transpiration. Et c'est des chiffres qui progressent.
Oui, malheureusement, tous les ans et depuis plusieurs années, on voit ces indicateurs qui se dégradent, hein, qui effectivement, on voit que les jeunes continuent à avoir des idées fausses sur les modes de transmission. On voit aussi qu'il y a toujours cette peur, en fait, des personnes séropositives où on imagine, voilà, que le VIH peut être transmis dans ces conditions. On ne cesse de rappeler, effectivement, ce que sont les vrais modes de transmission, mais on reste avec ces fantasmes complètement et ces peurs irraisonnées autour du VIH chez les jeunes comme chez les moins jeunes d'ailleurs.
Est-ce qu'on sait aujourd'hui combien de cas de séropositivité en France chaque année?
Alors, on estime aujourd'hui à 173 000 personnes qui vivent avec le VIH en France, dont entre 20 et 25 000 qui ne connaissent pas leur séropositivité. Et c'est là où ça nous inquiète, parce que aujourd'hui, une personne qui est dépistée et qui se sait séropositive a accès à un traitement qui lui permet de rester en bonne santé et de ne pas transmettre le VIH.
Ce
qui nous inquiète, c'est effectivement ces 20 000 personnes qui ne savent pas qu'elles sont séropositives et qui risquent de contaminer d'autres personnes et de voir leur santé se dégrader.
Et est-ce qu'on meurt du sida?
Aujourd'hui, on meurt du sida quand on n'est pas dépisté. C'est-à-dire que ce qui se passe en France aujourd'hui, on a dans le monde 650 000 décès du sida, mais en France, on a encore des personnes qui meurent du sida, alors un nombre moins important évidemment que ce qu'on a connu, mais parce qu'elles ne savent pas qu'elles sont séropositives. Elles arrivent trop tard dans les soins et on est en colère de savoir ça, parce qu'à aucun moment, soit on leur a proposé un test de dépistage, soit elles n'ont pas voulu, c'est difficile à expliquer, mais en tout cas, on se dit qu'aujourd'hui, on a ces traitements qui fonctionnent tellement bien, qui sont à prendre à vie, hein. Qu'aujourd'hui, on doit se battre pour que les gens aillent vers le dépistage.
Et ce n'est pas qu'une maladie de jeunes, c'est ça aussi qui est frappant dans les nouveaux cas détectés chaque année.
Tout à fait, hein, sur les 5000 personnes qui ont découvert leur séropositivité en 2021, on a 23% de personnes de plus de 50 ans. C'est une génération qui a pourtant connu les années 80 et 90 qui ont été terribles. Hein. Et aujourd'hui, on se dit que le VIH ne nous concerne plus, n'est plus là, et on voit ces proportions qui ne concernent pas que les jeunes.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est la PrEP? Beaucoup disent « je vis sous PrEP » comme si c'était une garantie.
La PrEP, c'est effectivement un traitement préventif, hein, qui est aussi efficace que le préservatif, qui permet, avant les rapports sexuels, comme la pilule contraceptive, de ne pas être contaminé par le VIH. Et selon les périodes de sa vie, selon ses pratiques, on peut utiliser le préservatif ou être sous PrEP. Et effectivement, c'est 100% efficace. C'est 100% efficace contre le VIH, mais ça ne protège pas des autres infections sexuellement transmissibles.
Et ça se prend avant le rapport?
Oui, avant le rapport.
Le prendre une fois de temps en temps, ou faut le prendre comme la pilule
Le mieux, c'est de le prendre de manière régulière, effectivement. Hein, mais effectivement, selon les périodes de sa vie, on peut le prendre durant quelques mois. On peut se retrouver avec la difficulté de parler du préservatif. J'ai vécu ça. Je pense qu'il y a 26 ans, si j'avais eu la PrEP, je ne serais sûrement pas séropositive. Donc, à des moments de notre vie, on peut avoir accès à un préservatif ou à la PrEP. Le principal, c'est finalement de ne pas être contaminé par le VIH.
Il n'y a pas d'effet secondaire?
Non, il n'y a pas d'effet secondaire.
Et il n'y a pas d'effet secondaire non plus avec le traitement, puisque dites que vous-même, vous êtes séropositif,
oui,
donc vous êtes sous traitement
quotidien. Oui, tout à fait. Oui,
donc vous prenez combien de médicaments aujourd'hui?
Alors, moi aujourd'hui, j'en prends 3, mais les personnes qui sont aujourd'hui sous traitement en prennent une. Alors moi, je ne réagis pas bien à cette molécule qui est sortie, mais voilà, comme tous les traitements, certains le supportent moins bien que d'autres. Mais en tout cas, je vis avec le VIH.
On subit vous vivez normalement?
Alors, je ne dirais jamais normalement, parce que vu les discriminations qu'on subit encore aujourd'hui, je ne vis pas normalement. C'est-à-dire, au niveau de ma santé, je vais bien.
Mais en termes physiques, il n'y a pas de fatigue, il n'y a pas d'effet secondaire,
Moi, j'ai un effet sur, en termes d'insomnie. Après, c'est compliqué aujourd'hui parfois de se dire est-ce que l'insomnie, c'est dû au stress ou au traitement. Mais en tout cas, mais rien à voir avec effectivement ce qu'on a connu dans les années 80-90.
On rappelle un numéro important pour tout le week-end, Florence Thune, c'est le 110.
Tout à fait. Le 110 ou sur siteaction.org pour financer la recherche. On a besoin d'aller vers le vaccin et vers rémission un jour, avoir un traitement définitif.
Merci beaucoup Florence Thune. On rappelle donc que c'est le week-end du SIDAction et que vous êtes la directrice générale du SIDAction. Le numéro c'est le 110 et RTL est évidemment partenaire de cette opération. Merci.
Merci, merci beaucoup pour votre témoignage. C'était RTL Votre Vie. Dans un instant, l'info revient.
Céline Landreau, Pascal Pro,
RTL Midi jusqu'à 13h. RTL, s'informer ensemble.
Bonjour à tous, si vous nous rejoignez, merci de rester avec nous si vous étiez déjà à l'écoute de ce RTL Midi, il est 12h30.
RTL Midi,
le 12h30,
Céline Landreau et Pascal Pro.
12h30, la grande édition de Céline Landreau.
Avec à la une évidemment cet événement rarissime, une visite d'État reprogrammée en raison de l'actualité politique et sociale. Charles III ne viendra pas en France comme c'était prévu en début de semaine prochaine. Le premier voyage d'État du monarque britannique est reporté à la demande de l'Élysée, font savoir les autorités britanniques, et cela en raison, vous l'imaginez bien, de la situation politique et sociale extrêmement tendue dans le pays, alors qu'une nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites est annoncée mardi et que celle d'hier a été émaillée d'incidents dans tout le pays, des affrontements avec les forces de l'ordre dans plusieurs villes, plus de 450 interpellations à la clé, a fait savoir le ministère de l'Intérieur. On reviendra dans ce journal sur le profil de ces casseurs qui cherchent l'affrontement avec les autorités. Cette réforme des retraites, le climat social, c'est aussi l'objet de la question du jour sur notre site rtl.fr. Faut-il, comme l'a demandé sur notre antenne Laurent Berger, le leader de la CFDT, mettre sur pause cette réforme qui cristallise tant de tensions. Dans cette édition également, on va parler football puisque les éliminatoires de l'Euro 2024 commencent ce soir pour les Bleus. Les joueurs de Didier Deschamps, emmenés par leur nouveau capitaine Kylian Mbappé, affronteront les Pays-Bas. Le coup d'envoi, ce sera à 20h45. Et puis votre rendez-vous culture, comme chaque jour, LVT midi, juste avant 13h. On va rendre hommage tout à l'heure avec Isabelle Morini-Bosque à Marion Gamme. Vous la connaissez peut-être plus sous le nom d'Huguette dans Scène de ménage, la série d'M6 avec qui elle formait un couple avec Raymond, couple truculent. On a appris sa disparition ce matin, elle avait 84 ans.
On en parlera évidemment avec les auditeurs à partir de 13h32 pour dialoguer jusqu'à 14h30.
La météo pour cet après-midi, c'est avec vous Anthony Kaczmarek aujourd'hui. C'est instable.
Bah oui, c'est instable, agité avec de la pluie, des giboulées, de fortes rafales de vent, mais toujours de la douceur.
Merci Anthony, les détails comme à chaque fois à la fin du journal.
RTL Midi.
Un report rarissime provoqué, on le disait, par la situation sociale.
Charles III ne viendra pas en France comme c'était prévu à partir de dimanche soir. Le déplacement est annulé, on l'a appris en fin de matinée. Un report à la demande de l'Élysée, c'est ce qu'ont fait savoir les autorités, Thomas Desprez, les autorités britanniques qui ont apporté cette précision.
Oui, en réalité, en coulisses, plus personne ne défendait l'idée de cette visite, hein, victime collatérale de la crise politique et sociale en cours. Imaginez l'image, hein, les tenues de soirée, les coupes de champagne et surtout la magnifique galerie des glaces de Versailles. Une idée complètement con, me disait hier encore un conseiller de la majorité. En réalité, les choses se sont accélérées ces toutes dernières heures. Il y a d'abord eu l'annonce de l'intersyndicale hier d'une nouvelle journée de mobilisation mardi. Les images cette nuit de la porte de l'hôtel de ville de Bordeaux en feu et puis la crainte de nouveaux débordements mardi. Le roi Emmanuel Macron se sont appelés ce matin, nous dit l'Élysée. Ce n'est pas le meilleur moment pour recevoir un roi, convient une conseillère du président. Annulation à la demande de la France, donc on vient de le dire, il faut dire que tout était prêt, hein, les chefs, le menu, le programme, nous conviendrons d'un meilleur moment plus tard, dit l'Élysée. Reste à savoir si cette annulation signifie qu'Emmanuel Macron souhaite reprendre la parole devant les Français ou si au contraire, il anticipe que le mouvement va durer.
Bah, est-ce que ça veut dire effectivement qu'il ne se passera rien avant mardi ? Par exemple.
En tout cas, qu'ils anticipent que mardi, on aurait parlé que de cette visite sur les côtés négatifs, les manifestations, la sécurité, et qu'ils n'auraient pas pu parler de la visite d'État comme ils l'auraient souhaité, c'est-à-dire avec la gastronomie française, avec la beauté du palais de Versailles. Donc voilà, en tout cas, ils savent qu'on n'en aurait pas parlé de la manière dont ils auraient aimé. Voilà pourquoi ils annulent cette visite.
Une annulation, un report, pour être plus précis, puisque le roi Charles et Camilla se réjouissent, disent-ils, d'aller en France dès que de nouvelles dates auront été trouvées. Report, en tout cas, salué par une partie de l'opposition. C'était le cas de l'écologiste Sandrine Rousseau. Écoutez.
Je pense que c'est une décision sage parce qu'il était hors de question que Emmanuel Macron ne change pas son agenda avec le conflit social et l'ampleur qu'il prend dans le pays. Et ça n'était pas possible non plus qu'il aille trinquer à Versailles dans la galerie des glaces avec Charles III quand le peuple se révolte et a faim. En fait, vraiment, il y a une image qui était absolument terrible. Et par ailleurs, c'est la première fois que Emmanuel Macron, depuis le début du conflit, modifie son agenda. Donc, voilà, j'ai l'impression que quelque chose est en train de prendre. Là, Emmanuel Macron, pour la première fois, donne un signe, qui est quand même un signe extrêmement faible, enfin, non taxe, d'un premier signe que la France est en crise. Donc, actons au moins cela, oui.
Sandrine Rousseau, l'écologiste jointe pour RTL par Marie Mollet. Charles III était attendu lundi matin sur les Champs-Élysées, observé par les curieux, les amateurs de la monarchie qui auraient été au rendez-vous des Parisiens. Un peu surpris ce matin à l'annonce de ce report, c'est ce que vous avez constaté. Place de la Bourse, Alexandre de Saint-Aignan.
Oui, après plusieurs nuits d'émeutes dans les rues de la capitale, Karim estime que le roi Charles peut attendre.
Je trouve que c'est une bonne chose.
Pourquoi c'est une bonne chose ?
C'est pas le moment de parler de Charles III. Je pense qu'on a d'autres sujets en ce moment qui prennent l'actualité. Autant se concentrer sur ce qui fait l'actu en ce moment. Et ensuite, on verra pour les visites de courtoisie.
Et pour Flora aussi, le timing n'est pas bon pour l'image de la capitale.
En plus, avec toutes les poubelles dans Paris, je pense qu'on n'est pas très accueillant.
Oui, mais Régis, lui, regrette. Il aimerait bien tourner la page de la réforme des retraites.
Ah bah, moi, je trouve que c'est bien dommage. Je pense que c'est un peu donner raison aux manifestants. Une nouvelle fois, c'est la rue qui gère le pays.
Heureusement, ce n'est que partie remise.
Non, il pourra venir une autre fois. On n'est pas très loin, c'est à 2 heures.
Et pour l'instant, la date d'une nouvelle visite de Charles III n'a pas encore été communiquée par le palais de Buckingham.
Alexandre de Saint-Aignan dans les rues de Paris pour RTL.
Je le disais donc, ce report, il est rarissime.
Et provoqué par la situation sociale, alors que les syndicats ont annoncé dès hier soir une nouvelle grande journée de mobilisation contre la réforme des retraites, ce mardi en pleine visite royale donc, et alors que la grande journée de mobilisation d'hier a déjà été émaillée par de nombreux incidents dans plusieurs villes du pays, à l'ouest notamment, c'était le cas à Rennes, Mathieu Lopineau, où comme ailleurs, des affrontements ont eu lieu en fin de manifestation entre les opposants et les forces de l'ordre.
Oui, effectivement, et ce matin, place de Bretagne, les Rennais se sont réveillés dans une forte odeur de plastique brûlé. Loïc, patron d'une brasserie sur la place, a une partie de sa vitrine brisée.
J'ai commandé les carreaux, mais je ne les changerai pas pour l'instant. Changer des carreaux pour les rechanger dans 2 semaines, inutile quoi. À Rennes, à chaque fois, c'est pareil. Pendant 2 heures, ils ont lancé des pavés, cocktail Molotov, la totale. À un moment donné, ça peut être dangereux quand même. Ouais.
Et non loin, une agence immobilière a été saccagée et pillée. Et c'est justement cette violence que condamne cet habitant du quartier, pourtant opposé à la réforme des retraites.
C'est triste, on voit bien qu'il y a quelques gars qui sont là pour taper, pour tuer. Quelle que soit la cause, ils seraient là. C'est triste. Les revendications, c'est pas comme ça qu'il faut faire. C'est pas ça, il faut construire. C'est pas comme ça qu'on va y arriver. On détruit là, c'est tout.
Et on sent également une lassitude chez Sabrina qui attend son bus sous un abri entièrement incendié.
Je vois pas pourquoi il y a eu de la casse alors qu'on veut exprimer une opinion. C'est pas comme ça qu'on va être entendu, quoi.
Et ce midi, ce matin, donc, on répare les dégâts, mais les Rennais craignent que cette violence se répète donc à nouveau lors de la prochaine journée de mobilisation à Rennes.
Mathieu Lopineau dans la ville bretonne. Donc, pour RTL, au total, 457 personnes ont été interpellées après les heurts hier. Plus de 440 policiers et gendarmes blessés lors de ces affrontements. Bonjour Anne Le Hennaf. Bonjour. Du service police-justice d'RTL. Est-ce qu'on en sait davantage à la mi-journée aujourd'hui sur le profil de ces casseurs?
Alors c'est assez compliqué, hein, surtout si rapidement, de faire une sorte de portrait robot de ces ultra-violents qui n'arborent pas de signes distinctifs. Ils sont jeunes, très souvent masqués, cagoulés, vêtus de noir. Ils sont là pour en découdre, puisque ça dégénère très rapidement, parfois dès le début des cortèges. Hier soir, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, était assez catégorique.
On peut dire que c'est un profil plutôt jeune. Beaucoup, malheureusement, sont connus de l'ultra-gauche. Nous avons pu documenter que l'ultra-gauche est derrière une grande partie des manifestations violente.
Plus que de Black Bloc, il a même parlé ce matin de Black Bourges. Il évoque des enfants de bonne famille. Sachez que pour Paris seulement, le tout dernier chiffre, c'est 127 interpellations hier soir. C'est une cinquantaine de plus que mardi soir. Et pour vous donner une idée de la violence des événements d'hier dans la capitale, je me suis aussi procuré le nombre de policiers et de gendarmes blessés hier soir à Paris, 105. 14 sont à l'hôpital.
Et ces 127 sont en garde à vue toujours en ce moment ?
J'ai pas la précision parce que dans les interpellés, il y en a qui vont en garde à vue, il y en a qui n'y vont pas. Et dans les gardes à vue, il y en a qui sortent sans poursuite et d'autres...
Et la sanction pénale, elle est à venir.
Ça dépend ce qu'on leur reproche. Elle est à venir dans les prochains
jours. Ça sera intéressant de suivre la réponse pénale.
Je m'engage à le faire pour vous, Pascal.
Merci beaucoup, Anne Le Hennaf. Et on rappelle qu'au-delà de ces violences, de ces affrontements, plus d'un million de personnes ont défilé hier dans toute la France contre cette réforme des retraites, que les grèves reconductibles se poursuivent dans plusieurs secteurs. C'est le cas notamment chez les éboueurs, dans les raffineries ou encore dans les transports, avec des perturbations toujours notamment dans le secteur aérien.
Et après les violences qui ont émaillé les manifestations d'hier dans plusieurs villes de France, les autorités redoutent désormais des débordements dans les Deux-Sèvres.
Car les militants anti-méga bassines, ces grandes réserves d'eau dédiées à l'irrigation agricole, se réunissent à Mel. 7 à 10 000 personnes attendues, 3 200 policiers et gendarmes mobilisés, car d'après le ministère de l'Intérieur, ce rassemblement risque d'être violent. Bonjour Philippe de Maréa. Philippe, c'est calme pour l'instant dans les Deux-Sèvres et vous assistez plutôt à ce stade, hein, à un jeu du chat et de la souris.
Oui, et les militants anti-bassines ont plutôt réussi leur coup ce matin. Ils se sont installés avec des dizaines de tentes, de fourgons, il y a même un chapiteau et des sanisettes à moins de 6 km du chantier des bassines sur un terrain privé avec l'autorisation du propriétaire. Julien Leguet, le porte-parole, est assez fier de lui.
C'est encore un coup de placement stratégique dont on a le secret. Donc là, on est en dehors de la zone concernée par les arrêtés préfectoraux. La haie qu'on voit là-bas, à près d'un kilomètre, c'est la limite de la commune de Sainte-Soline. C'est la barrière que je n'ai pas le droit de franchir. Et puis dans l'axe du bois qui est là-bas, à 6 km de là, il y a la bassine de Sainte-Soline.
L'idée c'est quand même de manifester, c'est d'y aller, c'est forcément de passer outre les arrêtés.
C'est d'aller de traverser le terrain pour obtenir déjà sur un court terme, mais sur le long terme, la fermeture, l'arrêt du chantier de Sainte-Soline. Par rapport au projet initial qui valait 60 millions d'euros pour 19 bassines, c'est 76 millions d'euros pour 16 bassines. Ça ne tient pas le choc.
Beaucoup de militants sont masqués ici sur le campement, peur d'être filmés, reconnus, peut-être fichés. Des hélicos de la gendarmerie survolent de temps à autre le tout nouveau campement des anti-bassines ici à Vanzé, dans les Deux-Sèvres.
Philippe de Maria dans les Deux-Sèvres, donc. Pour RTL.
Le football et le retour des Bleus ce soir, ce sera face aux Pays-Bas. On ne les a pas vus depuis quelques temps, c'était la finale de la Coupe du Monde.
Oui, et là c'est le début des éliminatoires de l'Euro 2024 qui débute. Pascal, une nouvelle ère s'ouvre avec un nouveau capitaine, Kylian Mbappé, on en a beaucoup parlé. Nouvelle ère donc pour les vice-champions du monde et attention à ne pas la commencer par un faux pas, Nicolas Georgerot.
Je n'ai pas plus de réponses que vous, individuellement, ce sont des joueurs qui jouent dans les meilleurs clubs.
Parce que les Bleus vont...
Alors, pardon Nicolas, excusez-moi, il y a eu un petit cafouillage, on a entendu Didier Deschamps, alors que c'est vous que je voulais entendre. On disait attention.
Que vous aviez changé de voix, Nicolas.
Oui, et des élocutions aussi.
On est content d'abord de retrouver les Bleus, hein, je dis, on ne les a pas eu depuis 3 mois.
Ben oui, parce que les Bleus vont débuter ce soir évidemment par l'adversaire le plus relevé du groupe et dans un stade de France comble qui va venir pour fêter, admirer les vice-champions du monde. Alors c'est vrai, les paillettes, les honneurs, les étoiles, le Qatar, tout ça c'était il y a 3 mois et il ne faut pas se tromper d'objectif pour les hommes de Didier Deschamps. Face à des Néerlandais affaiblis, des membres du staff diminués par un virus, le sélectionneur ne s'attend pas à des cadeaux.
Je n'ai pas plus de réponses que vous, individuellement. Ce sont des joueurs qui jouent dans les meilleurs clubs, qui sont habitués à la Champions League, et pour certains qui ont pas mal d'expérience avec cette équipe hollandaise. Ce dont je suis sûr, c'est que de toute façon, on aura une équipe très compétitive en face de nous.
Les joueurs de Ronald Koeman qui n'ont pas oublié la fessée 4-0 reçue à Saint-Denis en 2017. La dernière fois qu'ils sont venus ici, les deux premiers de ce groupe de qualification avec les Pays-Bas, l'Irlande, la Grèce et Gibraltar iront en Allemagne pour l'Euro dans 15 mois. Ça ne paraît pas insurmontable évidemment pour les Bleus, mais louper la première marche pour Mbappé et ses partenaires ferait mauvais genre.
Merci Nicolas. Nicolas, on vous retrouvera ce soir avec Philippe Sanfourche pour commenter le match. France-Pays-Bas, le coup d'envoi c'est à 20h45 au Stade de France et à vivre évidemment en direct sur RTL. RTL Foot sera dès 20h avec Eric Silvestro, Xavier Domergue et Karine Galli. La météo, Anthony Kazmarek, bon bah c'est...
Hein, c'est agité cette saison, voilà. En même temps. On a besoin de pluie, tant mieux. Elles sont là aujourd'hui entre le sud-ouest et les frontières de l'est. Un petit peu de neige au-delà de 2100 mètres dans les Alpes du Nord. Et puis après le passage de la perturbation, retour des fameuses giboulées de mars. De fréquentes averses, quelques coups de tonnerre et surtout de fortes rafales de vent sur quasiment tout le pays. Ça atteindra l'île de France dans le courant de l'après-midi ainsi que les frontières du Nord. Et puis un temps certes sec mais quand même assez nuageux près de la Méditerranée. Et attention au vent hein, qui va se renforcer cette nuit sur les côtes de la Manche et près de l'Atlantique. Les températures toujours douces. 12 à 16 degrés sur la moitié nord cet après-midi et 15 à 20 dans le sud.
Merci Anthony.
Charles III, vous le savez, ne viendra pas à Paris. On en parle dans une seconde avec Adélaïde de Clermont-Tonnerre.
RTL Midi. Céline Landreau et Pascal Pro. RTL Midi. Pascal Pro et Céline Landreau.
Il ne descendra pas les Champs-Élysées lundi, comme c'était prévu, ne dînera pas lundi soir à Versailles. La visite en France de Charles III, le roi d'Angleterre, est reportée en raison de la situation sociale et politique en France, en pleine bataille sociale contre cette réforme des retraites. Pour en parler avec nous, Thomas Després du service politique d'RTL et Adélaïde de Clermont-Tonnerre, directrice de la rédaction de Point de Vue. Bonjour.
Bonjour.
Et merci d'être en ligne avec nous, vous qui êtes habitué de ces voyages royaux. C'était en l'occurrence le premier voyage d'État pour Charles III, nouveau monarque britannique. C'est rarissime des... Alors, pas une annulation, mais des reports de la sorte.
Oui, honnêtement, c'est très très rare. Il y a peu d'exemples. On en a eu un assez récemment, rappelez-vous, en 2015, les souverains espagnols qui, à peine arrivés à Paris, avaient dû rebrousser chemin en raison d'un crash d'un avion entre Düsseldorf et Barcelone. On avait eu, il y a beaucoup plus longtemps, en 99 aussi, le président iranien qui avait annulé sa venue parce que l'Élysée refusait de retirer le vin à table. Donc c'était
autre chose.
Plus religieuse. Mais c'est assez rare, oui. Mais honnêtement, c'est la voie de la raison. C'était, le contexte n'était absolument pas réuni pour célébrer l'amitié franco-britannique.
Adélaïde, on dit parfois que le roi Charles est un poil susceptible. Est-ce qu'il peut être froissé de cette annulation ?
Je pense pas du tout qu'il soit froissé. Je pense que la préoccupation, elle était entièrement partagée. On savait que Buckingham regardait comme le lait sur le feu la situation en France. Tout le monde avait à perdre à une visite d'État ratée. Imaginez le roi descendant les Champs-Élysées avec le président Macron entouré de banderoles et de huées. C'est vraiment pas l'image qu'on a envie de donner. Il y avait trop de dangers que, au fond, le message soit mal reçu et soit mal perçu. Et puis, c'est une évidence qu'il faut entendre la colère sociale et que c'était absolument pas adapté à un moment de réjouissance.
Et puis les organisateurs aussi avaient des craintes que justement les journalistes, les médias n'illustrent que finalement les débordements, oui, les à côté, et ne parlent pas de ce qu'ils souhaitaient mettre en avant, à savoir le savoir-faire français, la gastronomie. Et puis il y avait aussi des craintes parce que les services remontaient des happenings, des coups préparés par des organisations. Alors ils disent des organisations d'extrême gauche qui auraient prévu de venir perturber, non pas pour s'en prendre au roi, hein, mais plutôt pour médiatiser, venir dire leur opposition et profiter du coup de projecteur qui allait être mis sur cette visite.
Vous avez absolument raison, parce que imaginez, c'était la première visite du roi, c'est la monarchie la plus scrutée au monde. On sait qu'à chaque fois qu'il se passe quelque chose chez les Windsor, ce sont des audiences extraordinaires. Ça voulait dire que le monde entier allait regarder cette visite. On n'a vraiment pas envie de montrer ni cette image de la France, ni cette image de l'amitié franco-britannique. Et le roi lui-même avait à perdre, parce que la préoccupation, c'est au fond, est-ce que ça pouvait aussi se retourner contre sa personne ? Et la dernière chose dont ils ont envie en Angleterre, où il y a aussi des mouvements sociaux, où il y a aussi une insatisfaction et une inflation bien plus violente que chez nous, c'était d'avoir des images du roi entouré de gens furieux et en protestation. Donc c'était absolument pas raisonnable de conserver cette visite d'État.
C'est ça, Adélaïde de Clermont-Tonnerre, même si Downing Street dit que ce report s'est fait à la demande de l'Élysée. Bon, on imagine bien que le roi Charles III s'est pas fait fermer la porte au nez, hein.
Bien sûr que non, ça a été entièrement concerté. D'ailleurs, cette visite est préparée depuis très longtemps, puisque c'était au fond dans les plannings et réfléchi et proposé depuis même avant le décès de la reine Elisabeth. Donc évidemment que ça s'est fait en concertation. C'était impossible aux invités finalement d'annuler d'eux-mêmes. C'est forcément la puissance invitante qui devait faire la démarche. Mais c'est en aucun cas un affront pour le roi Charles, et je pense plutôt, vu le contexte, que c'est un soulagement.
Thomas Després, au-delà de la visite du roi Charles, que dit-on ce matin à l'Élysée ? Est-ce qu'on a entendu la journée d'hier ? Est-ce qu'on imagine bouger quelque chose ?
La journée d'hier a profondément choqué les conseillers de l'exécutif parce qu'ils ne s'attendaient pas à avoir autant de violence. Ils imaginaient que l'interview d'Emmanuel Macron allait réussir à apaiser les choses. En réalité, ça a été tout l'inverse.
Ce sont les seuls.
Ça a été tout l'inverse. Après, ce qu'ils disent, c'est que cette visite-là, c'est un geste d'apaisement pour que la visite se passe dans des meilleures conditions plus tard, mais certainement pas pour des raisons politiques.
Il
continue d'expliquer que le Conseil constitutionnel, c'est la prochaine étape,
rien
d'ici 2 à 3 semaines.
Et c'est important de le dire.
Rien ne change.
D'accord. Mais à l'Élysée aujourd'hui, rien ne change.
Emmanuel Macron doit s'exprimer depuis Bruxelles d'une minute à l'autre, et il parlera évidemment de la situation, à la fois la visite et la manifestation d'hier.
Ben merci à Thomas Després.
Et merci à Adélaïde de Clermont-Tonnerre, directrice de la rédaction Le Point de Vue.
Hommage à Marion Gamme dans un instant.
Avec Isabelle Morini-Bosque.
Et puis Steven Bellery sera là aussi.
Jusqu'à 13h, RTL Midi. Pascal Pro, Céline Landreau.
Sécurisez votre domicile.
RTL. Laissez-vous tenter midi.
Ah. Vous aurez reconnu peut-être le générique de Scène de ménage, puisque La Quotidienne, diffusée ce soir à 20h30, rendra hommage à Marion Gamme ce soir sur M6, en diffusant des sketchs iconiques du couple que formait Marion Gamme alias Huguette avec Raymond. Isabelle Morini-Bosque, on a appris sa disparition ce matin, elle avait 84 ans et Marion Gamme, c'était un visage très familier pour des millions de téléspectateurs.
Jusqu'à 5 millions de téléspectateurs. Alors, vous savez, il faut toujours écouter les auditeurs téléspectateurs depuis des semaines. Ils ont été les premiers à s'inquiéter de ne plus voir à l'antenne Marion Gamme, alias Huguette de Scène de ménage. Elle forme avec Gérard Hernandez, on le sait depuis 2009, le binôme senior Eva Char d'un format court d'humour, élue depuis plusieurs années série préférée des téléspectateurs. Moi-même, je la savais fatiguée. Hein. Elle était incapable, par exemple, d'apprendre désormais de très longs dialogues. Mais c'était une telle force, une telle farce, Marion Gamme. Née à Casablanca en 1942, elle avait toujours rêvé, elle l'a raconté souvent, d'être actrice. Mais à l'époque, c'était pas gagné. Et en 2014, elle se rappelle son adolescence.
J'avais essayé de raconter que je voulais être actrice, on m'a rayonné. Ma mère m'a regardé en me disant « Regarde comment t'es égoulée, oublie, passe à autre chose. » Donc j'avais fait comme tout le monde, enfin comme beaucoup de jeunes filles de l'époque, des cours de chez Pigier, dactylo, sténodactylo, voilà. Et le premier job que j'ai eu, c'était secrétaire au Royal Automobile Club de Casablanca. Ce qui fait que gamine, j'avais quoi, 17 ans, j'ai connu tous les plus grands coureurs automobiles du monde. Et donc, on essaye de se rapprocher d'eux le plus possible, quoi. T'es groupie sans le savoir. Mais jamais j'aurais pu imaginer qu'un jour, je serais moi aussi dans la lumière.
Et plusieurs coureurs automobiles l'adoraient d'ailleurs. C'est sans doute la comédienne que j'ai le plus vue au théâtre de boulevard, où on l'adore parce qu'elle est pétillante, pétulante, bref, toujours présente, un temps compagne de Jacques Martin. Elle est aussi, c'est aussi la record woman de passage dans au théâtre ce soir. Hein. Donc comme elle est compagne de Jacques Martin, elle est très médiatisée, elle est aussi dans le petit écran avec les Jeux de 20h, l'Académie des Neufs, les feuilletons comme Les Demoiselles de Suresnes ou plus tard Plus belle la vie. Mais c'est évidemment Scène de ménage qui la propulse au sommet, alors que les critiques, qui l'ont toujours ignorée dans le meilleur des cas, la disent ringarde depuis plus de 30 ans. Les jeunes, eux, ils se fichent complètement de la critique, ça tombe bien, elle aussi, ils l'adorent, et notamment le sketch que tant pis on va réécouter. C'est l'un des premiers.
Tu sais ce qui me manquera le plus quand tu mourras ?
Non.
Ta retraite.
Voilà. Eh bien, c'est les juniors qui aiment le plus nos octogénaires, qui se disent des horreurs, comme on se dit des mots d'amour. La haine, c'est plus facile que l'amour. Et là aussi, elle sait expliquer cette affection.
Les gens se retrouvent, se reconnaissent, et puis voilà, quoi. Ils ont oui. tous quelqu'un autour d'eux qui ressemble au personnage qu'on représente. Et bon, même les enfants nous aiment. Parce que peut-être qu'on représente des grands-parents qu'ils n'ont pas. On est pire que les enfants, donc nous, on met nos doigts dans notre nez.
Et comment ne pas terminer par un dernier sketch, toujours dans l'esprit Huguette et Raymond.
Huguette, j'ai fait traverser un petit vieux.
Ah bon? Bah, tu fais des bonnes actions, toi, maintenant.
Qui te dit qu'il voulait traverser, hein?
Oh bah, tu me rassures.
Je vois que dans le regard de Pascal, qui trouve ça vraiment très vache. Alors.
Mais non, mais bah, je l'écoutais quand j'étais jeune au théâtre ce soir. Oui. C'était les comédies de Jean Marsan.
Absolument.
De Jean Marsan, de Marc Gilbert, voilà. Sauvageon. C'est au théâtre ce soir des années 70.
Et c'est pour ça que moi, je suis particulièrement triste aujourd'hui. Je garderai à l'esprit son autodérision, notamment quand elle me disait « Les critiques me croient morte depuis tellement longtemps que j'ai l'impression de faire du rab. »
Elle jouait dans les comédies de Claude Zidi également, c'était un second rôle. Et puis vous avez cité les Jeux de 20h qui était une émission incroyablement populaire dans les années 70, donc tout le monde la connaissait.
Et l'Académie des Neufs.
Et l'Académie des Neufs qui était formidable avec Jean-Pierre Foucault.
Merci beaucoup Isabelle Morini-Bosque. Dans Laissez-vous tenter midi, on parle aussi musique aujourd'hui. Bonjour Steven Bellery.
Bonjour à tous.
David Hallyday a dévoilé ce matin une chanson inédite composée à l'origine pour son père Johnny.
Oui, le morceau s'intitule « Le plus heureux des hommes ». On le retrouvera dans son prochain album, à paraître le 16 juin. Ce titre, David Hallyday l'a retrouvé un petit peu par hasard.
Quand t'es compositeur et que tu composes tout le temps, il y a des chansons qui passent à la trappe. C'est pas le cas de cette chanson, parce que celle-là, elle était destinée à être sur un album et elle était en sommeil, on va dire, sur un disque dur que j'ai retrouvé il y a 8-9 mois lors d'un déménagement et il y avait un carton marqué David Studio et comme j'avais au moins 15 vies un petit peu dans mon grenier, il faut que je fasse un tri, il faut que je m'y mette. Donc j'ai trouvé ces disques durs, 5 chansons. C'est des chansons qui étaient destinées à mon père en 2002. Après 100%, il m'avait demandé de refaire un album pour lui. Je m'étais mis à travailler et je suis arrêté finalement à 5 chansons parce que j'avais pas envie de remettre en jeu, on va dire, la référence de 100%. J'avais envie qu'il n'existe que ça, en fait, entre lui et moi. J'avais appelé pour lui expliquer, il était un peu déçu. Et parmi ces chansons, il y en avait deux qui étaient vraiment très fortes. Et j'ai décidé d'en faire vivre une pour être en inédit sur mon album. Parce qu'en fait, je fais un album en fait où j'ai repris des anciens titres, j'ai tout réenregistré, rechanté. C'est les 2.0, on va dire, de ces chansons-là. Alors, il y a Tu m'as pas laissé le temps, il y a 100%, il y a Mirador, il y a deux inédits, dont celui-là. Mais j'ai compris.
musique a rapproché le père et le fils. David Hallyday se souvient de l'aventure 100% avec Johnny.
On se voyait pas souvent et puis c'est vrai que ça nous a permis cet album à passer un long moment ensemble et ça c'était génial quand je lui faisais écouter les titres et qu'on se marrait, qu'on déconnait.
Cet album a changé votre relation d'une certaine manière.
On s'est rapprochés, c'est grâce à ce projet-là. Forcément, au-delà de la musique, il y a, on va dire, un marqueur important de vie.
Est-ce que la musique était présente à la maison quand vous viviez avec votre père? Est-ce que vous avez des souvenirs comme ça de transmission, de moments musicaux tous les deux ou pas tant que ça? Quand il était à la maison, il n'était pas musicien.
Ben en fait, pas tant que ça, parce qu'il était souvent parti, hein, était souvent en tournée, tout ça. Donc, il y avait des moments de musique, oui, quand il me réveillait à 5h du mat, quand j'étais petit, pour jouer de la batterie devant ses potes, quand il rentrait à pas d'heure. Ouais. Et oui, il y avait des moments rigolos comme ça. Enfin, ça amusait moins ma mère, je pense, mais moi, ça m'amusait beaucoup. Lui, ça avait l'air de l'amuser aussi.
Le titre est en écoute dès à présent. Nouvel album le 16 juin, tournée dès l'an prochain.
Merci Steven. David Hallyday sera notre invité sur la longueur, je crois, dimanche, hein, à partir de 9h15. Dans Laissez-vous tenter. Il est 13h, on va marquer une pause, on est un point en retard. On va évidemment beaucoup parler avec les auditeurs de la non-visite de Charles III à Paris. Sophie Orange sera avec nous, Bénédicte Tassard également en direct de Bruxelles. Restez avec nous, ça va être passionnant d'écouter les auditeurs. A tout de suite.
Votre avis compte.
Venez l'exprimer sur RTL au 3210.
50 centimes la minute.
RTL.
Il est 13h03.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Nous sommes avec Jean qui est chauffeur routier. Bonjour Jean.
Bonjour Pascal.
La non-visite de Charles III, qu'est-ce que ça vous inspire?
J'ai honte d'être français aujourd'hui. J'ai honte d'être français. Non, il ne faut pas l'annuler.
Ah bah maintenant c'est fait de toute façon, donc mais on va développer cette idée après avoir rappelé les titres avec Céline.
En vous rassurant, peut-être d'abord cette visite elle est pas annulée mais reportée selon les termes très exacts, donc Charles III finira par venir en France.
À la 5-5-5.
Ça je ne sais pas, on n'a pas la date encore Pascal. En tout cas, vous l'avez compris, Charles III ne sera pas en France dès dimanche soir pour ce voyage d'État de 3 jours, ce premier voyage d'État du souverain britannique depuis qu'il a accédé au trône. La décision de le reporter a été communiquée en fin de matinée. Bénédicte Tassard, on vous retrouve en direct de Bruxelles où se trouve actuellement Emmanuel Macron puisque le président français participe au Conseil européen en Belgique. Emmanuel Macron qui a eu Charles III ce matin au téléphone pour décider justement de ce report.
Oui, il y a eu un coup de téléphone juste après le petit déjeuner pris avec le chancelier allemand Olaf Scholz. Emmanuel Macron et Charles III se sont téléphonés directement pour évoquer la situation en France et ont donc décidé ensemble, selon l'Élysée, d'annuler cette visite.
Et Charles III qui ira dans la foulée, comme c'était prévu cette fois en Allemagne. Ce sera donc l'Allemagne qui sera le théâtre de ce premier déplacement, ce premier voyage d'État pour le roi Charles III. Un report qui semblait indispensable, incontournable d'après plusieurs membres de l'opposition. C'est le cas de la députée Rassemblement National, Laure Lavalette.
Qui est l'artisan du chaos? C'est évidemment Emmanuel Macron. Il a mis la France à feu et à sang. On voit bien le chaos qu'il y a dans la rue. Et ce chaos nous empêche effectivement de tenir le rang que la France devrait pouvoir tenir, évidemment, comme grande puissance. Ouais. Ça, il nous prive effectivement de ce moment, j'allais dire, d'amitié. Un loupé de plus, après que tous les ministres se soient précipités pour dire « Mais non, on sait faire, vous inquiétez pas, pas de problème. Patatras, voilà. » Là, on n'arrive même pas à tenir notre rang. C'est quand même un déclassement supplémentaire. En fait.
Laure Lavalette, députée Rassemblement National avec Marie Mollet pour RTL. Un report donc alors que les syndicats ont annoncé dès hier soir une nouvelle grande journée de mobilisation contre la réforme des retraites mardi prochain. Hier, l'acte 9 a rassemblé plus d'1 million de personnes dans les rues en France. Des rassemblements émaillés d'incidents, d'affrontements avec les forces de l'ordre dans plusieurs villes. À la clé, 457 interpellations et plus de 400 policiers et gendarmes blessés. Les craintes, elles concernent aussi les Deux-Sèvres pour ce week-end avec ces rassemblements par les opposants aux méga bassines. Vous le savez, ces réserves d'eau dédiées à l'irrigation agricole. Les opposants sont attendus en nombre sur place, 7 à 10 000 personnes d'après les services de renseignement. Plus de 3000 policiers et gendarmes sont mobilisés sur place. Et puis un mot de football avec le début des éliminatoires de l'Euro 2024. Ce soir au Stade de France, les Bleus recevront les Pays-Bas. Le coup d'envoi, ce sera à 20h45 et à suivre sur RTL.